France Inter.
C'est avec les corps qu'on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire par ailleurs, des choses indicibles. Les corps vont toucher chez le spectateur quelque chose qui va au-delà de la raison. Pour la danse, il y a quelque chose qui parle à nos cellules presque, à nos squelettes, à nos tendons. C'est peut-être à travers ces fibres que nous vient le sens de la danse.
Ce qu'on demande à un scientifique, ça n'est pas de ne jamais se tromper, ça n'est pas d'être objectif parce que personne ne l'est. Ça n'est pas de ne pas subir d'influence puisque tout le monde subit des influences. Ce qu'on demande à un scientifique, c'est d'être honnête, faire des travaux, obtenir des résultats, et avant de les mettre sur Twitter, de les présenter à d'autres personnes qui font des travaux analogues et s'intéressent à des sujets voisins.
On ne parle pas souvent de danse, c'est l'occasion de dire sa vivacité, notamment en Aix-en-Provence, où Angelin Prelle-Jocage est le capitaine d'un lieu conçu par Rudy Ricciotti, le Pavillon Noir. Bonjour.
Bonjour.
Et je dois vous dire bon anniversaire. Ben, c'est les 40 ans de votre compagnie
année. Ah oui, oui, bien sûr.
Il fait le surpris, mais ça fait un an déjà qu'il fait ça avec ses danseurs.
Je croyais que c'était mon anniversaire.
Ne crois pas, mais c'est un peu la même chose.
C'est un peu pareil.
Le Lac des Cygnes version Prelle-Jocage se donne au Théâtre des Champs-Élysées à Paris du 21 décembre au 4 janvier. Et l'Opéra de Paris reprend en février l'un de vos ballets les plus célèbres, Le Parc. Vous avez souhaité dans votre grand atelier la compagnie d'un physicien, philosophe, écrivain, alpiniste. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Ne levez pas les yeux au ciel, vous êtes tout ça à la fois.
De temps en temps.
De temps en temps, vous essayez de l'être. Votre nouveau livre est un dialogue entre le spationaute Thomas Pesquet et vous. Éloge du dépassement, il paraît chez Flammarion. Alors bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Angelin Prelle-Jocage, un chorégraphe qui fête les 40 ans de sa compagnie, ça reste un danseur.
Oui. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours l'impression de danser. Et c'est vraiment ma façon d'exister. Je crois que le jour où je ne danserai plus, je serai mort, peut-être.
Vous dansez tous les jours, vous montrez les mouvements à vos danseurs.
Oui.
Peut-être que dans votre tête, il y a un petit bonhomme qui danse.
Oui, ou même plusieurs, peut-être.
Parfois. Vous dites que vous n'aimez pas que votre tête soit vide de projets, que c'est un besoin vital qu'un projet naisse dans votre cerveau.
Oui, c'est vrai, je suis préoccupé, je suis hanté, en fait, c'est ce que j'aime dans l'idée de l'art et de la création, c'est cette espèce de c'est à chaque fois comme une graine qui vient dans la tête et qui commence à exprimer un rhizome incroyable qui se déploie, qui se développe, qui devient complètement obsessionnel et passionnant en même temps.
Ça pourrait être névrotique.
Oui, mais non, justement, c'est ça. C'est peut-être que l'art est une forme de rédemption aussi.
Étienne Klein, je citais l'une de ses qualités qui est d'être alpiniste, et Dieu sait s'il monte souvent, pas en ce moment, parce qu'il fait très froid et que ce serait très dangereux. Ça fait 3 mois à peu près que vous n'avez pas grimpé ?
Non, oui, 3 mois, c'est beaucoup trop.
Est-ce que c'est bien d'avoir le cerveau toujours occupé de petites graines qui poussent?
Ça me fait un point commun avec Angelin Prelle-Jocage. Moi, j'ai besoin de savoir quelle sera la prochaine montagne, quel sera le titre du prochain livre. Sinon, j'ai l'impression que ça ne va pas.
Ah oui. Donc, c'est plutôt lié au sport et à l'effort, et peut-être aussi à une forme de philosophie.
Non, il y a aussi des projets de recherche.
Qu'à vos travaux de chercheur.
Mais j'ai besoin d'avoir la tête occupée, oui.
Vous écoutiez à l'instant, là, Angelin Prelle-Jocage, Étienne Klein, dire dans le générique, dans la danse, quelque chose parle à nos cellules, nos squelettes, nos tendons. C'est à travers ces fibres que nous vient le sens de la danse. Comment ça résonne en vous, le physicien ?
Il y a une éloquence du corps, hein, c'est certain. En fait, notre corps, il est prisonnier du monde. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre avec l'atmosphère. On n'est pas dans le vide. Hein. C'est un monde qui est, du point de vue physique, très particulier par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'univers. Et ce monde, eh bien, il nous trompe sur les lois qui expliquent les phénomènes qu'il contient. Par exemple, dans notre monde, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Dans notre monde, quand on cesse de pédaler à vélo, le vélo s'arrête. On en déduit donc que l'immobilité est contagieuse. Si mon corps est immobile à vélo, mon vélo s'immobilise lui aussi. Mais tout ça, c'est faux. Voilà, on est trompé par le fait qu'on n'est pas dans le vide. Et les physiciens que j'admire le plus, c'est ceux du XVIIe siècle, les Galilée, Newton et autres, qui ont compris que si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut, alors qu'on est emprisonné dans notre corps, faire en sorte que notre esprit aille se faire voir ailleurs en posant des questions du type qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas là, si on était dans le vide, par exemple. Ou bien plus tard, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passerait si on était à cheval sur un rayon lumineux au bord d'un trou noir? Et donc, c'est en allant se faire voir ailleurs qu'on se pose des questions, qu'on fabrique des concepts avec lesquels, ensuite, on vient réinterroger le monde. Et la danse, moi, je suis pas du tout connaisseur, mais la danse, telle que je l'aperçois, c'est aussi une façon d'aller faire voir ailleurs son corps, si j'ose dire. C'est-à-dire d'inventer des gestes, parce que finalement, on est la seule espèce animale à inventer des gestes. Michel Serres nous racontait qu'on n'a jamais vu une vache dans un pré se dresser sur ses deux pattes arrière pour inviter son taureau préféré à danser la valse.
On retrouve l'humour de Michel Serres.
Les danses après le jocage. Oui, ben non, mais les danses nuptiales des animaux, ça existe aussi, non?
Ah, je sais pas, mais en tout cas, on a une inventivité.
Il y a des oiseaux qui font des trucs incroyables pour séduire leur.
Mais est-ce que c'est de la danse vraiment? Est-ce que
alors,
c'est inventé?
Alors, ça doit être instinctif.
Ou est-ce
bien
que
sûr.
C'est hérité? Non, je sais pas.
Une parade.
Alors que vous inventez parade, des nouveaux gestes. Comme
bah, oui, disons que moi, je considère la danse comme un langage. Donc, l'idée, c'est de pouvoir articuler ce langage pour dire des choses qui sont pas dissibles avec les mots, donc, comme on l'a évoqué, mais ce langage va parler plutôt à notre inconscient, parce qu'on n'a pas qu'une, on n'a pas qu'une intelligence. Il y a l'intelligence intellectuelle, l'intelligence mathématique, enfin voilà, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est une vraie intelligence qu'il faut pas négliger. Et je pense que c'est là qui se met en route face au processus artistique. C'est Francis Bacon qui disait mes tableaux ne s'adressent pas à la raison, il s'adresse au système nerveux, lui, il va encore plus loin. C'est vraiment presque...
C'est la même chose pour vous ?
Oui, oui, oui.
Quand vous chorégraphiez ?
Ben oui. Non, je pense aussi à Gérard de Nerval qui disait que, en fait, sa poésie, dès qu'on essaierait de l'expliquer, elle perdrait tout son charme, en fait. Il faut pas essayer toujours de comprendre. Et d'ailleurs, souvent, on le dit aux spectateurs qui viennent à la danse, c'est ne cherchez pas forcément à comprendre. Hein. Juste, vous regardez, vous ressentez, comme avec la peinture.
On va écouter Mozart, parce que Mozart vous a inspiré le ballet Le Parc qui est repris à l'Opéra de Paris dans quelques semaines. Je voudrais que vous nous parliez de ce célébrissime pas de deux que vous avez inventé quand la danseuse s'accroche au cou de son partenaire et tous les deux se mettent à tournoyer. Mm-hmm. On a l'impression qu'ils vont s'envoler, rejoindre Thomas Pesquet, là-haut. C'est vrai que vous avez créé quelque chose qui marque les esprits. Parlez-nous de ce pas de deux. J'ai rencontré un ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris il y a quelques jours, Stéphane Bullion,
qui a
dansé.
Ben bien sûr, il a dansé.
Bien sûr, et je lui dis, ça doit être très difficile. Il m'a dit, non, mais pas du tout, c'est pas difficile parce que la force de synergie emporte tout et on se
exactement.
Sent extrêmement léger.
D'ailleurs, c'est une des corrections que je fais souvent aux danseurs quand on travaille ce passage, c'est que parfois, certains danseurs mettent beaucoup d'action dans leur pas. C'est-à-dire, ils ont la fille qui est accrochée à leur cou, qui vient de l'embrasser, en fait, et ils font une action, alors qu'il faut juste laisser dériver le corps de la danseuse qui va générer une rotation, et le corps du danseur n'a plus qu'à suivre cette force giratoire.
Vous pourrez leur citer Stéphane Bullion.
Ben voilà.
Hein, oui, il en est la preuve vivante. Ouais.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Sigma, ce soir et demain soir au Fémina, de la danse avec la toute jeune compagnie française Angelin Preljogage. C'est de la danse minimaliste.
Angelin Preljogage, formé d'abord au classique en France, a découvert la danse contemporaine aux États-Unis avec Merce Cunningham. Assistant de Dominique Bagué, en 82, il a fondé sa compagnie fin 84. L'Arme Blanche, Marché Noir et Peur Bleue, les trois tableaux présentés à Sigma, sont ses toutes premières créations.
Il y a des tas de choses qui me gênent dans le discours classique, c'est la démonstration, les visages transfigurés, enfin toutes ces choses qui sont plus anecdotiques. Et je cherche à restituer dans les corps certaines codifications classiques, mais la structure est beaucoup plus contemporaine, quoi, comme une architecture, mais comme si les formes, il y avait des fioritures plus classiques, quoi.
Au milieu des années 80, ce reportage de FR3 Aquitaine, à l'époque sur le festival Sigma à Bordeaux, où un jeune chorégraphe est programmé, Angelin Preljogage, il avait un petit peu de mal à dire votre...
Mais il a bien réussi quand même.
Votre jeune patron de sa compagnie. Ça reste un souvenir assez fort, assez vif.
Ben oui, le festival Sigma, c'était une...
C'était quelque chose à Bordeaux.
C'était vraiment incroyable. Hein. C'était Gérald Lafosse qui dirigeait ce festival, avec une espèce de vision extrêmement avant-gardiste. C'est vraiment une sorte de Diaghilev local, quoi, je dirais.
Voilà. Non, et vous super. Arrivez fort de votre étude de la danse classique, mais aussi de la danse contemporaine, fort d'une expérience aux États-Unis avec Merce Cunningham.
Oui.
Vous avez dansé avec un jeune chorégraphe qui, quelques années plus tard, sera fauché par le sida. C'est Dominique Bagué, qui a été quelqu'un de très important dans les années 80 en France. Vous vous souvenez de l'envie qui est la vôtre quand vous créez votre compagnie, qui a donc 40 ans cette année?
Ben, c'est grâce à Dominique Bagué que tout ça s'est enclenché. Il m'a un peu adoubé, en fait.
Vous avez été un de ses danseurs.
Oui, voilà. Et puis, j'avais surtout une espèce de... le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'avais toujours peur que si je me mettais à faire quelque chose, ça serait une imposture de créer quelque chose. Je me disais, mais qui es-tu, toi, pour imposer comme ça à 50, 100 ou 1000 spectateurs quelque chose qui serait issu de ton inspiration. Mais en fait, quand je voyais Dominique, il y avait une telle humilité chez lui, il y avait une telle simplicité que je me suis dit, mais en fait, c'est possible, on peut rester quelqu'un d'humble, et voilà. Mais par contre, avoir une grande exigence par rapport à sa production artistique. Et c'est à partir de là que ça m'a titillé. Mais je pense que j'avais le désir, mais je n'avais pas
l'audace.
L'audace, voilà. Ah. Et c'est lui qui m'a donné l'audace de le faire.
On l'écoute, bravo. Dominique Bagué, c'était en 1986.
La formation du danseur, ce serait de respecter les qualités humaines. Ce serait de ne pas mettre le danseur dans une petite boîte qui serait une école de danse, n'importe laquelle, et qui serait que là, le danseur serait élevé comme un cheval de course et qui n'aurait plus que cet univers-là dans sa vie. La relation avec la musique, très très importante, et la relation avec finalement la création elle-même, la création artistique, et de par la qualité aussi de son entraînement sur des bases solides aussi bien de classiques que contemporaines, un sens d'ouverture, disons.
Voilà, il a déjà cette idée que vous avez aussi, que vous avez poursuivi, de ne pas faire d'un danseur un cheval de course, mais que ses yeux aillent partout autour de lui.
Oui, oui.
Ça, c'est un peu aussi du Preljogage.
Oui, et puis aussi, par exemple, dans ma manière de choisir les danseurs avec qui je vais travailler, quand je fais une audition, je ne cherche pas un bon danseur. Je cherche plutôt quelqu'un qui danse très bien. Et vraiment, ce petit distinguo est paraît subtil, mais en fait, il est très important.
D'autant plus que vous allez de plus en plus dans votre danse, Angelin Preljogage, vers la virtuosité.
Oui, ça m'intéresse beaucoup, la virtuosité.
Donc, si vous demandez beaucoup à un danseur en audition.
Voilà, mais donc, j'aime bien l'idée que quelqu'un, par exemple, quand je vois sur scène, j'aime voir quelqu'un entrer en scène, et non pas voir un danseur entrer en scène. On voit arriver quelqu'un, et il se trouve qu'il danse très bien. Mais ça, c'est une autre histoire que de voir arriver un bon danseur, en fait.
Ça vous fascine, ça, Étienne Klein ?
Oui, j'aimerais bien mieux comprendre la différence entre voir arriver quelqu'un qui danse et voir arriver un danseur.
Eh bien, parce qu'il y a des gens qui ont une grande virtuosité technique, mais qui sont un peu dans l'expression virtuose du mouvement, mais sans âme, sans habiter le mouvement. Comment peut-on, en fait c'est presque antinomique, comme c'est avec le corps qu'on fait ça, comment on peut effacer totalement sa personnalité, alors que le corps est imprégné et imprimé par sa personnalité et sa conscience. Donc c'est important que le danseur soit très chargé de sa personnalité et de la conscience de lui-même aussi, pas au sens narcissique, mais de pouvoir habiter le mouvement de cette manière-là.
Vous parlez beaucoup à vos danseurs ?
Non, pas tellement. Non, je montre beaucoup et je travaille assez étroitement avec eux et on se connaît presque d'une façon, d'une manière cognitive mais mystérieuse, qui est celle de la danse.
Ouais. Un regard peut expliquer des choses,
oui,
peut
oui,
indiquer des choses. Oui. Vous avez en face de vous un scientifique qui a beaucoup étudié le temps en physique, avec des essais comme les tactiques de Chronos et le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Étienne Klein, je ne me trompe pas, vous qui aimez les jeux de mots et les anagrammes aussi, vous êtes très fort. Le temps chez vous, je ne sais pas, Angelin Prelle-Jocage, si vous en avez conscience ou pas, mais j'ai l'impression que vous avez enchaîné toute votre vie jusqu'à présent, les ballets à la vitesse grand V, au moins un par an, parfois plus. Vous avez à votre actif près de 60 ballets, comme si vous essayiez peut-être de ne pas voir le temps qui passe.
Oui, on pourrait dire ça, mais il y a beaucoup d'explications et d'interprétations possibles sur ça. C'est peut-être mes origines
albanaises,
avec mes parents qui arrivent d'Albanie, totalement démunis, réfugiés politiques, qui perdent toute connexion, toute racine avec leurs origines.
Mère qui ne sait pas lire ni écrire.
Ma mère était totalement analphabète. Donc tout ça... C'est quand je parle du langage, de l'écriture chorégraphique, tout ça, c'est quelque chose qui se construit, en fait, presque psychanalytiquement chez moi. Et le fait d'enchaîner et de... Bon, d'abord, il y a un grand plaisir. Ça, c'est vraiment important. J'ai du plaisir à créer, à travailler. C'est, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'habite et qui me donne presque la notion de mon existence. Mais c'est l'idée de peut-être construire une mémoire imaginaire qui remplacerait toute la tragédie de mes parents. Parce qu'en fait, quand on quitte un pays comme ça, il y a une grande culpabilité. Par exemple, mon père, quand il a quitté l'Albanie, il a appris très vite que sa mère avait été emprisonnée pendant plusieurs années en rétorsion de son acte d'avoir quitté le pays. Et c'est pour dissuader évidemment les gens de faire de même, etc. Donc ça, c'est très violent. Toute cette culpabilité, elle est énorme. Et donc, peut-être pourquoi je crée comme ça, c'est pour créer cette espèce de mémoire. C'était une nouvelle mémoire, une mémoire abstraite peut-être de ce qui s'est passé, de ce qui reste de tout ça.
Étienne oui. Klein, le temps sur le corps d'un danseur, ça doit vous intéresser.
Ce que vient de dire Angelin, ça me fait penser à une phrase de Bourdieu qui disait « Le corps fonctionne comme un langage par lequel on est parlé ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr.
Non, mais le temps, moi, c'était plutôt une question de cohérence, c'est-à-dire le temps, on en parle dans le langage de façon presque invariable. Hein, quand on lit les textes de saint Augustin du 4e siècle après Jésus-Christ, donc il y a 16 siècles, les confessions, il y a un chapitre sur le temps, quand on le lit, on comprend tout, quoi. Alors, entre saint Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, beaucoup d'autres.
Qui comptent énormément pour vous. Hein.
Oui, mais ils ont complètement changé notre façon de comprendre le temps, son lien à l'espace, sa nature, enfin, en tout cas sa représentation. Et si on avait tenu compte de tout ce qui a été découvert par les physiciens, on ne pourrait plus comprendre ce qu'avait écrit saint Augustin, parce que le langage aurait été tellement transformé que la langue de cette époque, sur le temps, nous serait devenu incompréhensible. Et en fait, on comprend saint Augustin parce qu'on parle comme lui. C'est-à-dire que notre langage, il a nullement été affecté par ses découvertes. Et moi, tout mon travail avec d'autres, hein, c'était de tenter d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Et comme elles ne parlent pas, il y a un petit travail d'interprétation.
Là, vous avez parlé avec Thomas Pesquet, notre spationaute bien-aimé, éloge au pluriel du dépassement, chez Flammarion. Est-ce qu'il faut entendre dépassement de nos limites humaines ? Est-ce qu'il faut entendre qu'il faut aller de l'avant dans les recherches scientifiques, ne pas avoir peur de la science ?
Alors, la science, elle permet de faire des choses qui peuvent faire peur, donc c'est pas ça qu'on parle, nous on parle plutôt du dépassement dans un sens très général. Exister, c'est plus que vivre. Exister, il y a ex. Voilà. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui disait « L'existence est une exclamation dans le vide éclaté ». Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a deux fois ex. Faut sortir. Donc le dépassement, c'est simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller se faire voir ailleurs, d'une façon ou d'une autre, même en restant sur place. Par exemple, quand vous apprenez à danser, vous allez vous faire voir ailleurs. Quand vous apprenez une langue étrangère, vous allez vous faire voir ailleurs. Quand vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, vous allez vous faire voir ailleurs. C'est ça que j'appelle le dépassement. Et quand vous escaladez une montagne, c'est la même chose.
Et l'éloge, pourquoi l'éloge de ça?
Parce que
ça nous décentre.
Oui, alors éloge parce que j'ai l'impression que l'air du temps est un peu fatigué. Voilà. Mmh. Et donc c'est un essai contre la fatigue. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs.
Mais il y a Nietzsche qui disait
atteindre
son idéal, c'est le dépasser du même coup. Donc il y a quelque chose qui est lié au dépassement, ouais. Qui est vraiment très beau parce que c'est vrai que par exemple si on parle de la montagne et qu'on arrive au camp de base, en fait aller au-delà du camp de base, si l'objectif était le camp de base, ben c'est simple. Une fois qu'on est arrivé, il suffit de faire deux pas ou un pas et voilà, on a dépassé. Donc atteindre son objectif finalement, c'est vraiment le dépasser du même coup, quoi.
Oui. Et Thomas Pesquet, avec qui j'ai donc conversé pour écrire ce livre, lui, il a franchi des limites. Il est allé deux fois dans l'ISS pendant 6 mois, donc à 400 km d'altitude, et il a vécu des choses... D'ailleurs, je ne sais pas si dans l'ISS, on pourrait imaginer des chorégraphies en apesanteur.
En apesanteur, ça serait magnifique.
C'est très lent, c'est très beau. Ouais,
c'est une nouvelle graine dans le cerveau de Hans Limprecht.
Ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire le vide dans un espace spectaculaire, enfin, je dirais presque. Oui. C'est-à-dire des théâtres où on organiserait le vide.
C'est peut-être pas impossible.
Non, on n'a pas besoin du vide pour être en apesanteur. Ils ne sont pas dans le vide. Ils sont dans un champ de gravité. Oui. Ce qu'a compris Einstein, c'est qu'on peut être en apesanteur dans un champ de gravité.
D'accord.
Ouais. En fait, ils sont... Ce qu'on appelle l'apesanteur, ce n'est pas l'absence de pesanteur. Là où il est l'ISS, il y a un champ gravitationnel. Ils ont un poids. Hein. Mais en fait, ils ont une vitesse radiale qui fait qu'ils... Qui tourne, mais ça se voit pas, il tourne autour de la Terre.
Est-ce que vous pouvez, Étienne Klein, s'il vous plaît, nous vulgariser cette notion d'impesanteur qui n'est pas l'apesanteur?
Alors, ce qu'a compris Einstein en 1907, il rentrait de déjeuner, il s'est assis à son bureau, et il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Il a compris ce jour-là qu'un corps en chute libre, en chute libre ça veut dire dans le vide, un corps qui ne subit que son poids, ne sent pas qu'il a un poids. Pourquoi ? Parce que quand vous tombez en chute libre, si vous prenez un objet qui tombe avec vous, par exemple votre stylo, il n'a pas la même masse que vous, mais il tombe à la même vitesse que vous, puisque dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse. Donc alors que vous tombez du fait que vous avez un poids, vous avez l'impression que la gravité a disparu. Mmh. Et ça a provoqué chez lui une très forte émotion qui l'a conduit à proposer une nouvelle théorie de la gravitation en 1915, qu'on appelle la relativité générale. Mais donc, ce qu'on appelle l'impesanteur, c'est pas du tout l'absence de pesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur. Et là, si on est tous les trois assis autour de cette table, et on sent qu'on a un poids à cause de la réaction de notre chaise.
Oui.
Mais s'il n'y avait pas cette réaction, si on tombait en chute libre, on ne sentirait pas qu'on a un poids. Et donc, on peut être en impesanteur dans un champ de gravitation. Pour ça, il suffit de tomber en chute libre en ligne droite ou bien de tourner autour de la Terre, en l'occurrence, comme le fait l'ISS.
Mais là, ça tourne très vite dans l'espace, mais sur la Terre, non ?
Oui.
Parce que la Terre, elle tournait.
Lui, il faisait le tour de la Terre en 1h30.
Oui.
Se dépasser, je reprends la notion d'éloge du dépassement, je trouve ça passionnant pour un danseur et un chorégraphe. Est-ce que le danseur doit se dépasser en permanence ou est-ce qu'il a des limites au dépassement? Comment ça se passe avec vous en tout cas?
Je crois que le danseur est en dépassement permanent en fait. C'est-à-dire que quand il rentre dans sa formation de danseur, il voit bien qu'il a des tas de stades, d'étapes à franchir pour arriver à maîtriser vraiment et à pouvoir s'épanouir et à ouvrir son champ d'expression avec son corps. Donc le corps, c'est son outil, donc il doit le malaxer, il doit l'aiguiser, il y a un rapport entre l'interprète et l'instrument qui est très particulier chez le danseur. Parce que évidemment, un violoniste, il a son violon, il peut le poser. Un danseur, il peut pas poser son corps, sauf en état d'impesanteur.
Vous avez bien suivi.
Bon, quand on est en impesanteur, on a une masse, mais on n'a plus de poids.
Voilà.
Et on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la gravité telle qu'elle est. Moi, j'ai fait un vol 0G, c'est pas du tout la même chose, mais un vol 0G, c'est donc un Airbus spécial
qui monte
à 45 degrés. Quand on est très haut, à 10 000 mètres, on coupe les moteurs quasiment, et l'avion fait une trajectoire, a une trajectoire parabolique de 24 secondes, 12 secondes de montée, 12 secondes de descente, et pendant cette phase-là, on est en apesanteur, et on fait des saltos qu'on ne peut pas faire sur Terre.
Un petit peu la nausée en vous écoutant. Il est 17h29 sur France Inter et partout ailleurs, on écoute Vanessa Paradis, elle chante « Les épines du cœur ». «
Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Deux hommes qui ont l'habitude de se dépasser dans le Grand Atelier. Il y a Angelin Preljokaj, qui fête les 40 ans de sa compagnie, le ballet Preljokaj, et puis Étienne Klein, qui sort entre autres récemment Éloge du dépassement chez Flammarion. Je voudrais qu'on écoute d'anciens danseurs d'Angelin Preljokaj. Ils ont dansé dans certains de vos ballets. Et on va écouter ce qu'ils ont dit de vous dans un documentaire sur YouTube. Aurélie Dupont, Sylvain Gros et la danseuse Kaori Ito.
En danse classique, on est toujours dans l'élévation, on essaie toujours de se monter, d'être très gracieux, d'être au-dessus du sol presque. Et Angelin, c'est quelqu'un qui est dans les appuis, dans les pliés profonds. Et ça, j'ai découvert ça, et j'ai adoré ça. Il y avait quelque chose de masculin qui me plaisait.
Il aime la virtuosité, il aime l'extrême rapport au corps. Il vient du judo, il vient du sport, Angelin. Il est dans une chose athlétique, physique.
En fait, Angelin, il aime tout. Il aime à la fois le contact, il aime le choc, presque, de deux corps ou de deux personnalités. Et il aime aussi une grande sensualité.
Il y a beaucoup d'amour, je crois. Il traite beaucoup de sujets d'amour entre deux personnes, même si c'est avec une femme ou avec un homme.
Je crois qu'Angelin, il est bon pour associer les interprètes. Il a le don de mettre le couple, de bien le choisir et de mettre le couple en scène.
Moi, ce que j'aime d'Angelin, c'est l'animalité qui le dépasse. Moi, j'ai des moments de création en tête avec Angelin au studio. C'est à fond tout le temps. J'adorais, je n'en pouvais plus.
Je me tourne vers Étienne Klein. En danse classique, on a tendance à penser qu'on est dans la tentative d'élévation et même souvent dans l'élévation du corps. Mais là, Angelin Preljokaj, d'après ses danseurs, est dans les appuis. Est-ce que ça parle au physicien que vous êtes ?
C'est-à-dire que la gravité se fait sentir assez souvent, j'imagine. Oui. Même si, en voyant un ballet, on a l'impression qu'il y a des phases d'impesanteur, enfin, de vol, de chute libre. On peut monter en chute libre, en fait. Hein. Dans les fameux vols paraboliques, il y a 24 secondes, 12 secondes de montée, 12 secondes de descente. Ben, dans les 12 secondes de montée, on monte. On monte, mais on est en chute libre. Mm-hmm. On peut monter en chute libre. Et les danseurs... Je vois bien quand ils font leur grand saut, là, ils montent en chute libre.
Oui, c'est vrai. Angelin Preljokaj, ces fameux appuis qui viennent du judo, ça m'intéresse d'abord, parce que Thomas Pesquet est aussi ceinture noire de judo.
C'est vrai,
ouais,
ah oui.
J'imagine que vous, vous êtes ceinture noire aussi. Noir, ouais, donc vous pourriez faire aussi un libre avec Thomas Pesquet, je ne sais pas s'il aime la danse.
Ou un petit combat, un soft combat.
Un soft combat. Et vous avez souvent dit que le judo vous aidait toujours dans votre vie de chorégraphe.
Mais en fait, j'ai mis du temps à comprendre certaines choses dans mon propre travail, dans ma relation, dans les duos, par exemple, où je prenais un partenaire et je montrais aux autres danseurs, voilà, tu fais ça, voilà, tu lèves la hanche et hop, il bascule, tu vois, et il reste en suspension. Et les danseurs essayaient et ils n'y arrivaient pas, alors que c'était des grands virtuoses quand même. Et je ne comprenais pas pourquoi. Moi, ça me venait très facilement. Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, que j'ai compris que ça venait du judo. Parce qu'en fait, le judo, en fait, l'idée, c'est de déséquilibrer son partenaire et de l'amener dans une sorte de basculement, d'ailleurs. Et bon, évidemment, c'est un peu violent, puisque c'est un sport de combat.
Mais ça, vous le faites faire à vos danseurs.
Si on ralentit ça, finalement, on arrive à une espèce de grâce, de beauté.
En impesanteur.
En impesanteur.
Vous voyez, c'est le terme du jour.
Voilà. Le judo en impesanteur, ça ne doit pas être très violent ni très spectaculaire.
Oui.
Vous en faites toujours ?
Non, j'ai arrêté.
J'entends aussi, dans ce qui vient d'être dit, Angelin a beaucoup d'amour. Qu'est-ce que l'amour ajoute à la transmission d'un mouvement, à la direction de danseur ?
Je crois que c'est une question d'intentionnalité, presque. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas le même selon l'intention qu'on y met. Et puis aussi selon de la perception qu'on a du départ du mouvement, c'est-à-dire d'où part le mouvement. Et à ce moment-là, évidemment, si ça vient du ventre ou du genou, tout ça, c'est pas le même mouvement, alors que ça pourrait ressembler, mais ça bouge pas pareil. Mais je dis ça par métaphore, que l'amour peut être le point de départ d'un mouvement. Et donc, ça va le colorer, ça va lui donner une autre texture que le même mouvement, mais qui ne serait pas impulsé par un sentiment d'amour, peut-être.
Le parc que vous reprenez, il a été créé en 1994 à l'Opéra de Paris bientôt. ce sont des variations amoureuses. On parle de ça, là.
Oui, oui, absolument.
Précisément.
Oui, 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 oui. Et il y a beaucoup d'impulsions qui sont liées à l'amour aussi, évidemment.
Dans vous mêlez Mozart, en tout cas dans le ballet, à de la musique contemporaine, à des sons d'aujourd'hui. Oui, et vous avez une vision de l'amour aussi d'aujourd'hui. On peut parler d'aujourd'hui.
Bien sûr, de toute façon, l'amour est quelque chose qui traverse les temps. Alors parfois, ça a été surestimé. Parfois, on peut imaginer que c'est une sorte de mythologie humaine qu'on a inventée pour créer peut-être l'idée de civilisation, je ne sais pas. C'est peut-être une invention. Alors qu'on est, en fait, dans l'amour, ce qu'on croit être l'amour, c'est peut-être juste des réactions biologiques. Jean-Didier Vincent, vous voyez qui il est, il en a beaucoup parlé. Et c'est absolument passionnant ce qu'il raconte sur ce sujet.
Un autre scientifique.
Voilà,
Vous êtes souvent amené à rencontrer des artistes, Étienne Klein. Est-ce que vous avez l'occasion
J'ai un anagramme pour vous.
Ah, ça y est, vous l'avez trouvé.
Le superbe spectacle de l'amour. C'est un peu ce que vous faites. Mmh. Ben, ça a pour anagramme la courbure de l'espace-temps.
Ah ben, très bien.
Et ça nous ramène à Einstein. Alors, est-ce que je fréquente des artistes?
Oui, est-ce que vous aimez discuter avec eux, converser? Est-ce que vous apprenez des choses? Ou est-ce que c'est étranger aux scientifiques?
Plutôt que des musiciens, il m'arrive de faire des petits spectacles avec un guitariste qui s'appelle Olivier Mélano. En fait, il improvise, et puis moi, j'improvise un truc sur la physique à partir de ce qu'il a joué, puis il improvise à nouveau. Et là, j'ai un petit projet, mais je peux pas trop en parler, qui s'appelle Touche Quantique, au pluriel, où il s'agirait de faire entendre les grands principes de la physique quantique dont on fête le centenaire au piano. D'ailleurs, on a parlé d'anniversaire, on est le 14 décembre 2025, il y a exactement 125 ans, le 14 décembre 1900, un physicien allemand qui s'appelle Max Planck a présenté à Berlin un mémoire devant l'Académie des sciences, dans lequel il a émis l'hypothèse que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière étaient discontinus, l'hypothèse des quantas. C'était les premiers pas de la physique quantique, et ça s'est passé aujourd'hui, il y a 125 ans.
Vous, vos pas vont souvent dans la neige et sur la roche. Vous êtes un alpiniste depuis bientôt 50 ans, Étienne Klein.
40. 40. Bon, je suis amateur, un peu,
je vous vieillis. Non, vous n'êtes pas du tout amateur. Je voudrais savoir si parfois, quand vous passez d'une paroi à une autre, vous dansez. Est-ce que la danse est en vous?
En fait, il y a une danse, il y a une éloquence du corps, il y a une culture dans le physique. Il y a même des postures d'alpinistes qui portent des noms, la gastounette, etc. Et quand on voit un alpiniste chevronné grimper, on a l'impression qu'il y a une intelligence du corps. C'est-à-dire que l'alpiniste, il n'est pas tout le temps en train de se demander où il doit mettre la main. Il y a une espèce d'éducation, d'entraînement aussi, qui fait qu'on perçoit de loin, quand on le regarde, une intelligence du corps. Qui n'est pas un truc complètement cérébral, puisque tous les gestes ne sont pas précédés d'une intentionnalité explicite. Ils sont très beaux, moi je trouve qu'un...
Et c'est lié à la proprioception. qui est cette faculté qu'on a à savoir où on est, où est placé notre corps dans l'espace, c'est-à-dire les yeux fermés. On sait, enfin, selon si c'est très développé ou pas chez l'individu, on sait que les bras sont sur les côtés, ou bien qu'il y a un bras en l'air, etc. Alors que d'autres gens, en fait, sont un peu flous avec ça. S'ils ferment les yeux, on leur dit « mets ton bras devant », en fait, ils le mettent un peu en diagonale, ou enfin des choses comme ça.
Vous savez qu'Étienne Klein, dans Psychisme ascensionnel chez Artaud, dit qu'il se sent en sécurité dans ces montagnes, quand il pratique l'alpinisme.
Enfin, il s'est passé, depuis que j'ai écrit ça, des choses qui font que je serais moins affirmatif.
C'est vrai, parce que vous disiez aussi, je me souviens vous avoir lu, je vous avais déjà reçu dans le Grand Atelier, vous disiez « je me sens libre en alpinisme alors que c'est un monde de contraintes ».
Oui, on se sent responsable de l'autre, on est encordé, moi je grimpe évidemment qu'en cordée, avec Bruno Martin ou François Damilano, et on se sent libre, et en même temps, il y a des contraintes très fortes. Mais on est responsable, et le fait de se sentir responsable, paradoxalement, ça donne un sentiment de liberté.
Vous faites l'expérience du vide ?
Enfin, le vide, c'est un abus de langage. Parce que les alpinistes, ils appellent vide ce dans quoi ils peuvent tomber, c'est-à-dire ce qui est en dessous d'eux. Mais le vrai vide, il est au-dessus. Autrement dit, la gravitation polarise notre langage. Le vrai vide, il est au-dessus de nos têtes.
Le vertige, c'est la peur du vide en dessous.
On ne peut pas tomber au-dessus de nous. Donc c'est la gravitation qui fait qu'on appelle vide à ce qui est en dessous de nous. Mais quand vous êtes à 5000 mètres, disons au sommet du Mont Blanc à peu près, il y a plus de vide entre votre tête et la Lune qu'il y en a entre votre tête et l'océan.
Et oui.
Le vide, ça passionne aussi Angelin Preljocage. Parce que par exemple, quand ses danseurs lui disent « Mais Angelin, tu ne nous regardes pas quand on danse », il dit « Je regarde le vide entre vous deux ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, Angelin Preljocage ?
Ça veut dire que je considère qu'il y a deux chorégraphie. Il y a deux mouvements dans un travail de chorégraphe. Il y a le mouvement des corps, qui serait, disons, le mouvement concave, et il y a le mouvement convexe. C'est-à-dire, c'est l'espace qui bouge sans arrêt entre les danseurs. Et les deux m'intéressent quand je chorégraphie et quand je travaille sur un spectacle. Et évidemment, souvent, je suis amené à regarder entre les danseurs. Donc, je regarde la danse de l'espace entre les danseurs.
C'est fou, ça, c'est un
et
peu...
Et c'est ça qui est très...
Abstrait pour nous.
Mais c'est ça qui me plaît énormément dans mon idée que la danse est un langage. Et ça m'amène à penser que l'espace est un lieu à inséminer par les danseurs. C'est-à-dire que les danseurs vont donner une fonction et ils vont donner un langage à l'espace. Et c'est tout mon travail, et c'est là-dessus surtout que je suis arc-bouté, en fait.
Est-ce qu'il y a une énergie du vide, Étienne Klein ?
Ah, selon la physique quantique, il y en a une, elle est même énorme. Hein. En fait, le vide, c'est pas le néant. Hein. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide.
C'est pour ça que je voulais être avec lui.
Donc la question, c'est, voilà, qu'est-ce qui existe ? Et parmi les choses qui existent, quelles sont celles qu'on peut retirer, enlever ? Et le vide, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout ce qu'on peut enlever. Et selon les théories physiques, le vide, c'est soit l'espace et le temps vide, soit un espace-temps avec des particules virtuelles. Enfin, les théories ne sont pas toutes d'accord là-dessus.
Vous parlez souvent, d'ailleurs, de votre goût de la science physique, Angelin Preljocage. En quoi les sciences physiques vous aident à chorégraphier ?
D'abord parce qu'elle questionne les lois physiques, elle questionne notre place dans l'univers aussi d'une certaine manière. Non, je me trompe.
Oui,
un peu quand même.
Non.
Et aussi les questions de la gravité. Aussi, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Gravité,
donc, oui.
Qui explore différentes gravités. C'est-à-dire, le travail était d'imaginer comment réagirait le corps selon des gravités différentes, y compris les gravités d'un trou noir.
Alors, c'est drôle parce que le fait de connaître les lois physiques, ça peut changer ou ça peut permettre à des sportifs d'inventer des gestes. Mais peut-être c'est vrai pour la danse. Le cas le plus célèbre, c'est Dick Fosbury, sauteur en hauteur en 1968 aux Jeux Olympiques. Il a sauté pour la première fois à l'envers, c'est-à-dire dos à la barre. Il avait compris que quand on fait cela, le corps passe au-dessus de la barre, mais le centre de gravité passe sous la barre. Donc il avait compris qu'on peut sauter plus haut que son corps. Et comme la hauteur à laquelle s'élève le centre de gravité, elle est déterminée par l'impulsion qu'on donne, si on s'y prend bien, on va pouvoir sauter plus haut que son corps grâce à cette technique de Fosbury. Aujourd'hui, tout le monde fait ça.
Je pense à l'expérience du corps. Selon Angelin Preljocage, je pense que je ne dis pas de bêtises, on peut danser à tous les âges. Et vous vous êtes amusé, je pense que le terme est juste, à proposer à des danseurs amateurs âgés de venir... Un casting pour un ballet. Alors, ils sont plus de 300 à s'être présentés à cette audition, alors qu'il n'y avait que 8 places. Ils avaient plus de 65 ans. Ils ont travaillé pendant 2 mois, ceux qui ont été élus. 6 heures de travail par jour. Ils ont outrepassé les idées reçues liées aux effets de l'âge. Donc, j'imagine tout le travail qu'il a fallu faire pour déverrouiller les corps, peut-être aussi pour réactiver la mémoire. Ça s'est passé la première au Théâtre National de Chaillot. Et Valérie Muller, votre femme, a réalisé un documentaire autour de la création de ce ballet Birthday Party.
Dès que j'ai su que j'étais sélectionnée, je n'avais qu'une idée en tête, c'est de commencer le travail avec Angelin. Une opportunité exceptionnelle et qu'il fallait la saisir, qu'il fallait se donner un fond. On voulait sentir qu'on existait, qu'on vivait.
1, 2, 3, 2, 2, 3, 6.
Et puis ça nous oblige à aller chercher au fond de nous, tu vois, notre énergie. Mm. Parce que quand tu commences à être vieux, t'es dans le confort, tu cherches des espèces de rituels. Et là, d'un seul coup, t'es bousculé. Mais c'est super d'être bousculé.
Alors, on va compliquer. Donc.
Non,
mais pas beaucoup.
La danse, c'est un travail sur l'énergie, sur tout ce que tu as vécu et tout ce qui te reste encore comme énergie. Et cette énergie-là, c'est pas la même que quand tu es jeune. T'as plus qu'une ligne droite à 70 ans ou à 79 ans. Oui, tu sens que c'est vital. Tu cherches dans ton instinct de survie cette énergie.
Je trouve que ce film fait beaucoup de bien. Est-ce que ça vous a fait du bien, vous, de voir ces gens aller bien et dire on dépasse notre énergie vitale ?
Oui, c'était formidable. C'était vraiment une aventure merveilleuse. Ces gens de 70 à 82 ans qui se sont donnés à fond pendant 2 mois, 6 heures par jour. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Et de voir que le corps, il, en fait, il a pas de limite. Presque. Et que
les limites sont dans notre tête.
Exactement. Moi, je pense qu'il y a, il y a plusieurs âges. En fait, le même corps a plusieurs âges. Il a son âge biologique, c'est-à-dire de ses muscles, de ses molécules, etc. Il a l'âge que le propriétaire de ce corps lui donne. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'inconsciemment, un des Marx Brothers qui a dit. Je ne sais plus comment il a dit ça.
Dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà. Dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on croit, dans notre tête, on pense qu'on a 40 ans.
Étienne Klein ?
Ça me fait penser à mon viatique que j'utilise dans les courses. C'est une phrase de Deleuze qui disait, ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi.
Ouais. Pas mal.
Et vieillir à la montagne, c'est possible. Être alpiniste vieux, ça, c'est pas possible. Écoutez,
je préfère ne pas en parler. C'est un sujet douloureux.
C'est vrai, c'est douloureux.
Non, mais ça peut le devenir. Je sens que ça peut le devenir. Oui.
Cela dit, beaucoup de physiciens ont adoré la montagne. Je crois qu'Einstein aimait la randonnée.
Oui, la randonnée, mais beaucoup de physiciens qui ont été les pères fondateurs de la physique quantique dont je parlais tout à l'heure, dans les années 20-30, allaient en montagne. Enrico Fermi, Heisenberg. Paoli, non, parce qu'il aimait trop les sucreries, mais tous les autres, ils grimpaient. Alors, est-ce que c'était un effet de mode ou est-ce que c'est parce qu'il y avait une sorte de résonance entre leur travail intellectuel de physicien et la pratique de la montagne, la quête des hauteurs? Je ne sais pas.
On va écouter les Américains d'Austin au Texas. Spoon, ils chantent « Guess I'm falling in love » et on vous donne tout de suite après des conseils culturels pour la semaine.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Après le jocage, on aime bien effectivement que les invités du Grand Atelier conseillent aux auditeurs ce qu'ils peuvent lire, ce qu'ils peuvent voir. Vous, justement, c'est une exposition, donc on peut voir un artiste que vous aimez.
Gerhard Richter,
Fondation
à la
Louis
Fondation
Vuitton.
Louis Vuitton. Une exposition magnifique et qui retrace très très bien son parcours et ses préoccupations et qui résonne en moi parce que, par exemple, moi j'aime beaucoup mon travail peut être abstrait, lié à un travail presque de laboratoire parfois. Et parfois, j'aime raconter des histoires, comme là avec le lac des cygnes.
La narration.
Voilà, j'aime la narration, mais j'aime aussi le travail totalement abstrait, avec des œuvres comme avec John Cage, Empty Moves, etc. Et chez Richter, ça résonne en moi parce que je vois aussi que lui est entre le figuratif et l'abstraction la plus totale. Et de la même manière que moi, je ressens que l'un nourrit l'autre, c'est flagrant dans cette exposition. On voit comment tout son travail de figuration à partir de photos, etc., tout à coup devient et se propulse dans des espaces d'abstraction totale, et comment ces espaces d'abstraction totale finalement vont créer des flous dans sa peinture figurative. Et c'est tout ce mouvement de l'un à l'autre qui est absolument fabuleux à découvrir.
Il y a quelques années, c'était assez la mode de voir des danseurs danser au Louvre ou danser ailleurs, au milieu de tableaux.
Oui,
c'est des choses que vous avez vécues, expérimentées.
Oui. D'ailleurs, je vais sûrement le refaire bientôt.
Avec des tableaux de qui ?
Alors, avec des tableaux du musée d'Orsay, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Et donc voilà, ça c'est des choses. Et puis j'ai fait aussi des présentations et des performances à Aix, en Provence, au musée Granet. Voilà, des choses comme ça.
Je rappelle que vous êtes basé au pavillon noir.
Exactement, à Aix,
construit pour vous et vos danseurs à Aix, en Provence. Combien de danseurs ? Une trentaine dans
30 danseurs
dans le ballet Preljokaj en ce moment. Le conseil culturel d'Étienne Klein, c'est une pièce de théâtre, Le mariage de Figaro, avec Philippe Torreton. Ça se passe à la Scala à Paris jusqu'au 4 janvier.
Oui, j'ai dû aller la voir il n'y a pas très longtemps et j'étais époustouflé par la beauté de la langue, la richesse. Je connaissais la pièce, mais je ne l'avais pas vue depuis très longtemps. Et après la représentation, comme une de mes petites cousines joue le rôle de Franchette, j'ai pu discuter avec Philippe Torreton de physique quantique pendant un long moment. Oui, c'est une belle rencontre.
Et de quoi on parle précisément de physique quantique avec Torreton?
Il était fasciné, enfin je crois qu'il est fasciné, comme beaucoup de gens, par ce fameux phénomène d'intrication quantique, par lequel deux particules qui ont interagi gardent une corrélation très forte, même si la distance qui les sépare augmente. Ça évoque un peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos du vide entre les danseurs. Il y a quand même, même s'ils sont éloignés, il y a quand même une corrélation, une intrication qui n'est pas quantique, mais qui est réelle, et qui continue de les lier. Mais j'avais une anecdote à vous raconter, parce que il y a quelques années, vous m'avez invité au pavillon noir pour donner une conférence sur Einstein, mais vous n'avez pas pu être présent le jour où je l'ai donné. Mais avant d'entrer sur scène, on m'a demandé de choisir une chanson qui accompagnerait la sortie du public. Et j'ai dit « Gimme Shelter ». La chanson des Rolling Stones, Jimmy Shelter, j'ai peut-être mal prononcé, parce que quand la conférence a été terminée, j'ai entendu Michel Thor. Très belle chanson au demeurant, mais c'était pas celle que j'avais prévue.
C'est très bien, c'est vrai que c'est un fou des Rolling Stones, d'ailleurs il ressemble un petit peu à Keith Richards. Étienne Klein en face de vous.
Ah bah oui.
Hein,
c'est oui, évident. C'est vrai.
En parlant de musique...
C'est vrai, il a moins de bagues, mais...
J'en ai une.
On va écouter un musicien, justement, qui ne fait pas partie des Rolling Stones. C'est un Français qui s'appelle Sébastien Tellier. À mon avis, ce qu'il dit là va vous parler, monsieur le chorégraphe et monsieur le physicien.
On pourrait s'imaginer un monde fait quasiment que de scientifiques qui seraient là pour... tuer finalement la douleur, la maladie, tout ça. Alors peut-être pas nous donner l'éternité, mais quand même être sweet dans son corps. Et pour que quand même ces scientifiques ne s'ennuient pas trop, même si c'est très intéressant et très prenant, des artistes autour, quoi. Donc des musiciens, des cuisiniers, des cinéastes, comme pour divertir ces messieurs-dames, quoi. Et je me dirais que ça, ce monde-là, il serait assez beau, je trouve.
Un monde fait de scientifiques et d'artistes. Est-ce qu'il faut aspirer à ça ?
Un monde idéal, vous voulez dire ?
Oui, c'est un monde idéal pour vous. Et vous, Étienne Klein ?
Ah non, moi je pense qu'on a besoin de tout le monde.
Ah oui ?
Pas que de deux catégories, simplement.
Je reviens à votre éloge du dépassement. Il parle quand même d'un futur heureux, c'est-à-dire qu'il dit oui, la période est difficile en ce moment, mais ayez confiance. J'ai l'impression que vous vous adressez un peu aussi aux jeunes qui peuvent être un peu désabusés en ce moment.
C'est pas qu'ils sont désabusés, c'est que
ils
souffrent du fait que l'avenir n'est pas configuré. Voilà, on est pris par des urgences climatiques, environnementales, de toutes sortes, et il faut les traiter évidemment. Mais le fait qu'on ait le nez dans le guidon, dans le court terme, fait que on s'interdit presque de penser des projets à très long terme.
Et vous leur dites
et
le contraire.
Je pense que pour les jeunes générations, c'est très difficile pour eux de constater que l'axe du temps n'est pas tracé pour eux, alors qu'il était dans notre génération. Quand on était adolescent, on entendait parler de l'an 2000 en permanence. On nous expliquait comment ce serait en 2000.
Oui.
Alors cette projection était en partie fausse, mais chacun pouvait tracer une ligne individuelle entre le présent où nous étions et le futur qui nous était montré à l'avance. Et c'était un confort psychique que n'ont pas les jeunes générations. Et je pense que notre devoir, c'est quand même de tenter d'élaborer un récit pas forcément heureux, mais qui nous connecte au futur.
Est-ce que vous avez, vous, l'artiste que vous êtes, avec vos jeunes danseurs, Angelin Prelle-Jocage, la possibilité d'avoir un discours peut-être optimiste ou moins noir que ce qu'ils ressentent, que ce qu'ils éprouvent?
En tout cas, eux me donnent beaucoup d'optimisme, parce que j'entends beaucoup que les jeunes aujourd'hui sont toujours sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, qui sont moins investis dans la vie active et quotidienne. Mais en fait, les danseurs que je vois, qui sont des jeunes, et ils sont vraiment très impliqués, ils sont passionnés, ils se projettent vraiment dans l'avenir, dans le futur, ils sont actifs, ils sont même politiquement, ils ont une réflexion sur le monde, et donc moi je suis très étonné de voir à quel point ils sont là, ils sont présents, et ils me donnent beaucoup d'optimisme. C'est eux qui me donnent de l'optimisme.
Est-ce que vous sentez beaucoup de jeunes qui ont envie d'être danseurs? Est-ce que ça ne bouge pas, ça?
Moi, j'en fréquente beaucoup, par la force des choses.
Il y a un biais.
Mais,
on vient beaucoup frapper à la porte du pavillon noir.
Oui, oui, quand même. Et puis, on a un ballet junior. C'est-à-dire, tous les ans, on a un groupe de 12 danseurs qui sont en formation, qu'ils ont payé pour apprendre, pour passer de l'état de danseur, d'élève danseur à artiste, en fait.
Eh bien, je vous souhaite du plaisir avec la reprise du Lac des Cygnes et de donner du plaisir à Angelin Prelle-Jocage. Merci d'être venu. Vous serez donc au Théâtre des Champs-Élysées, puis à l'Opéra de Paris avec la reprise du Parc. Et l'éloge du dépassement, ça, c'est Étienne Klein avec Thomas Pesquet chez Flammarion. David Leprince a réalisé cette émission, préparée avec Marion Guilbault, Louise Tempero, Alexandra Conet, Valentine Chédebois a programmé la musique. Il y avait à la technique cet après-midi Gaspard Guy Bourget.